Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Chapitre 3 de Carmen par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3, deuxième partie. Sachant déjà par expérience à quoi m'en tenir là-dessus, je cherchais Carmen partout où je croyais qu'elle pouvait être, et je passais 20 fois par jour dans la rue du Candilero. Un soir, j'étais chez Dorothée, que j'avais presque apprivoisée en lui payant de temps à autre quelques verres d'anisette, lorsque Carmen entra, suivie d'un jeune homme, lieutenant dans notre régiment. « Va-t'en, vite !» me dit-elle en basque. Je restais stupéfait, la rage dans le cœur.
« Qu'est-ce que tu fais ici ?» me dit le lieutenant.
« Décampe, hors d'ici !» Je ne pouvais faire un pas. J'étais comme perclus. L'officier, en colère, voyant que je ne me retirais pas et que je n'avais pas même ôté mon bonnet de police, me prit au collet et me secoua rudement. Je ne sais ce que je lui dis. Il tira son épée et je dégainai. La vieille me saisit le bras et le lieutenant me donna un coup au front dont je porte encore la marque. Je reculai et d'un coup de coude je jetai Dorothée à la renverse. Puis, comme le lieutenant me poursuivait, je lui mis la pointe au corps et il s'enferra. Carmen alors éteignit la lampe et dit dans sa langue à Dorothée de s'enfuir. Moi-même, je me sauvai dans la rue et me mis à courir sans savoir où. Il me semblait que quelqu'un me suivait. Quand je revins à moi, je trouvai que Carmen ne m'avait pas quitté. « Grand niais de Canaries !» me dit-elle. « Tu ne sais faire que des bêtises. Aussi bien, je te l'ai dit que je te porterai malheur. Allons, il y a remède à tout quand on a pour bonne amie une flamande de Rome. » Note, flamenca de Roma, terme d'argot qui désigne les bohémiennes. Roma ne veut pas dire ici la ville éternelle, mais la nation des Romi ou des gens mariés, nom que se donnent les bohémiens. Les premiers qu'on vit en Espagne venaient probablement des Pays-Bas, d'où est venu leur nom de flamand. Fin de la note.
Commence par mettre ce mouchoir sur ta tête et jette-moi ce ceinturon. Attends-moi dans cette allée, je reviens dans 2 minutes.
Elle disparut et me rapporta bientôt une mantrier qu'elle était allée chercher je ne sais où. Elle me fit quitter mon uniforme et mettre la mante par-dessus ma chemise. Ainsi accoutré, avec le mouchoir dont elle avait bandé la plaie que j'avais à la tête, je ressemblais assez à un paysan valencien, comme il y en a à Séville, qui viennent vendre leur orgeat de choufasse. Note, racine bulbeuse dont on fait une boisson assez agréable. Fin de la note. Puis elle me mena dans une maison assez semblable à celle de Dorothée, au fond d'une petite ruelle. Elle et une autre bohémienne me lavèrent, me pansèrent mieux que n'eût pu le faire un chirurgien-major, me firent boire je ne sais quoi. Enfin, on me mit sur un matelas et je m'endormis. Probablement ces femmes avaient mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes dont elles ont le secret, car je ne m'éveillais que fort tard le lendemain. J'avais un grand mal de tête et un peu de fièvre. Il fallut quelque temps pour que le souvenir me revînt de la terrible scène où j'avais pris part la veille. Après avoir pansé ma plaie, Carmen et son amie, accroupies toutes les deux sur les talons auprès de mon matelas, échangèrent quelques mots en chibcali, qui paraissait être une consultation médicale. Puis toutes les deux m'assurèrent que je serais guérie avant peu, mais qu'il fallait quitter Séville le plus tôt possible, car si l'on m'y attrapait, j'y serais fusillée sans rémission. « Mon garçon, me dit Carmen, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus ni riz ni merluche, note, nourriture ordinaire du soldat espagnol, fin de la note,
Il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à Pastessas.
Note. Ustila a Pastessas. Voler avec adresse. Dérober sans violence. Fin de la note.
Mais tu es leste et fort. Si tu as du cœur, va-t'en à la côte et fais-toi contrebandier. Ne t'ai-je pas promis de te faire pendre? Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais t'y prendre, tu vivras comme un prince aussi longtemps que les mignons.
Note. Espèce de corps franc. Fin de la note.
Et les gardes-côtes ne te mettront pas la main sur le collet.
Ce fut de cette façon engageante que cette diable de fille me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait, la seule, à vrai dire, qui me resta, maintenant que j'avais encouru la peine de mort. Vous le dirai-je, monsieur ? Elle me détermina sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais à elle plus intimement par cette vie de hasard et de rébellion. Désormais, je crus m'assurer son amour. J'avais entendu souvent parler de quelques contrebandiers qui parcouraient l'Andalousie, montés sur un bon cheval, l'espingole au poing, leur maîtresse en croupe. Je me voyais déjà trottant par monts et par veaux avec la gentille bohémienne derrière moi. Quand je lui parlais de cela, elle riait à se tenir les côtés et me disait qu'il n'y a rien de si beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque rhum se retire avec sa roumie, sous sa petite tente formée de trois cerceaux, avec une couverture par-dessus. « Si je tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je serai sûr de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. »«
Ah, tu es jaloux, répondait-elle. Tant pis pour toi. Comment es-tu assez bête pour cela? Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ?»
Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. Pour le faire court, monsieur, Carmen me procura un habit bourgeois avec lequel je sortis de Séville sans être reconnu. J'allai à Jerez avec une lettre de Pastia pour un marchand d'anisette chez qui se réunissaient des contrebandiers. On me présenta à ces gens-là, dont le chef, surnommé le Dankaïr, me reçut dans sa troupe. Nous partîmes pour Gossin, où je retrouvai Carmen, qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens, et de meilleur, il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar, et déjà elle avait arrangé avec un patron de navire l'embarquement de marchandises anglaises que nous devions recevoir sur la côte. Nous allâmes les attendre près d'Estepona, puis nous en cachâmes une partie dans la montagne. Chargés du reste, nous nous rendîmes à Ronda. Carmen nous y avait précédés. Ce fut elle encore qui nous indiqua le moment où nous entrerions en ville. Ce premier voyage et quelques autres après furent heureux. La vie de contrebandier me plaisait mieux que la vie de soldat. Je faisais des cadeaux à Carmen, j'avais de l'argent et une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car, comme disent les bohémiens, « Gall avec plaisir ne démange pas ». Note. « Sarapia sat pesquital ne ponsava ». Fin de la note. Partout nous étions bien reçus. Mes compagnons me traitaient bien et même me témoignaient de la considération. La raison, c'était que j'avais tué un homme. Et parmi eux, il y en avait qui n'avaient pas un pareil exploit sur la conscience. Mais ce qui me touchait davantage dans ma nouvelle vie, c'est que je voyais souvent Carmen. Elle me montrait plus d'amitié que jamais. Cependant, devant les camarades, elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse. Et même, elle m'avait fait jurer par toutes sortes de serments de ne rien leur dire sur son compte. J'étais si faible devant cette créature que j'obéissais à tous ses caprices. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme, et j'étais assez simple pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée de ses façons d'autrefois. Notre troupe, qui se composait de 8 ou 10 hommes, ne se réunissait guère que dans les moments décisifs, et d'ordinaire nous étions dispersés 2 à 2, 3 à 3, dans les villes et les villages. Chacun de nous prétendait avoir un métier. Celui-ci était chaudronnier, celui-là maquignon. Moi, j'étais marchand de mercerie, mais je ne me montrais guère dans les gros endroits, à cause de ma mauvaise affaire de Séville. Un jour, ou plutôt une nuit, notre rendez-vous était au bas de Végé. Le Dankaïr et moi, nous nous y trouvâmes avant les autres. Il paraissait fort gai. « Nous allons avoir un camarade de plus, » me dit-il. « Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Elle vient de faire échapper son rhum qui était au Presidio à Tarifa. » Je commençais déjà à comprendre le bohémien, que parlaient presque tous mes camarades, et ce mot de Rome me causa un saisissement.
« Comment ? Son mari ? Elle est donc mariée ? »
demandai-je au capitaine. « Oui, répondit-il, à Garcia le Borgne, un bohémien aussi futé qu'elle. Le pauvre garçon était aux galères. Carmen a si bien embobliné le chirurgien du Présidio qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. Ah, cette fille-là vaut son pesant d'or. Il y a 2 ans qu'elle cherche à le faire évader. Rien n'a réussi, jusqu'à ce qu'on s'est avisé de changer le major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a trouvé bien vite le moyen de s'entendre. Vous vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle. Je vis bientôt Garcia le Borgne. C'était bien le plus vilain monstre que la bohème ait nourri. Noir de peau et plus noir d'âme, c'était le plus franc scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Carmen vint avec lui, et, lorsqu'elle l'appelait son rhum devant moi, il fallait voir les yeux qu'elle me faisait et ses grimaces quand Garcia tournait la tête. J'étais indigné et je ne lui parlais pas de la nuit. Le matin, nous avions fait nos ballots, et nous étions déjà en route quand nous nous aperçûmes qu'une douzaine de cavaliers étaient à nos trousses. Les fanfarons andalous, qui ne parlaient que de tout massacrer, firent aussitôt piteuse mine. Ce fut un sauve-qui-peut général. Le dangaïr, Garcia, un joli garçon des Sierras, qui s'appelait le Remendado, et Carmen ne perdirent pas la tête. Le reste avait abandonné les mulets et s'était jeté dans les ravins où les chevaux ne pouvaient les suivre. Nous ne pouvions conserver nos bêtes, et nous nous hâtâmes de défaire le meilleur de notre butin et de le charger sur nos épaules, puis nous essayâmes de nous sauver au travers des rochers par les pentes les plus roides. Nous jetions nos ballots devant nous, et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Pendant ce temps-là, l'ennemi nous canardait. C'était la première fois que j'entendais siffler les balles, et cela ne me fit pas grand-chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite à se moquer de la mort. Nous nous échappâmes, excepté le pauvre Remendado, qui reçut un coup de feu dans les reins. Je jetai mon paquet et j'essayai de le prendre. « Imbécile ! » me cria Garcia. « Qu'avons-nous à faire d'une charogne ? Achève-le et ne perds pas les bas de coton. »«
Jette-le ! » me criait Carmen.
La fatigue m'obligea de le déposer un moment à l'abri d'un rocher. Garcia s'avança et lui lâcha son espingole dans la tête. « Bien habile qu'il le reconnaîtrait maintenant, » dit-il en regardant sa figure que 12 balles avaient mise en morceaux. « Voilà, monsieur, la belle vie que j'ai menée. Le soir, nous nous trouvâmes dans un hallier, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets. Que fit cet infernal Garcia ? Il tira un paquet de cartes de sa poche et se mit à jouer avec le dankaïr à la lueur d'un feu qu'ils allumèrent. Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché, regardant les étoiles, pensant au Remendado et me disant que j'aimerais autant être à sa place. Carmen était accroupie près de moi et de temps en temps elle faisait un roulement de castagnettes en chantonnant. Puis, s'approchant comme pour me parler à l'oreille, elle m'embrassa, presque malgré moi, 2 ou 3 fois. « Tu es le diable, » lui disais-je. « Oui, » me répondait-elle. Après quelques heures de repos, elle s'en fut à Gossin, et le lendemain matin un petit chevrier vint nous porter du pain. Nous demeurâmes là tout le jour, et la nuit, nous nous rapprochâmes de Gossin. Nous attendions des nouvelles de Carmen. Rien ne venait. Au jour, nous voyons un muletier qui menait une femme bien habillée, avec un parasol, et une petite fille qui paraissait sa domestique. Garcia nous dit « Voilà 2 mules et 2 femmes que Saint-Nicolas nous envoie. J'aimerais mieux 4 mules. N'importe, j'en fais mon affaire. » Il prit son espingole et descendit vers le sentier en se cachant dans les broussailles. Nous le suivions, le dankaïr et moi, à peu de distance. Quand nous fûmes à portée, nous nous montrâmes et nous criâmes au muletier de s'arrêter. La femme, en nous voyant, au lieu de s'effrayer, et notre toilette aurait suffi pour cela, fait un grand éclat de rire. « Ah ! Les lilipendies qui me prennent pour une éragne !» Note, les imbéciles qui me prennent pour une femme comme il faut. Fin de la note. C'était Carmen, mais si bien déguisée que je ne l'aurais pas reconnue parlant une autre langue. Elle sauta en bas de sa mule et causa quelque temps à voix basse avec le dankaïr et Garcia, puis elle me dit « Canari, nous nous reverrons avant que tu sois pendu. Je vais à Gibraltar pour les affaires d'Égypte. Vous entendrez bientôt parler de moi. » nous nous séparâmes après qu'elle nous eut indiqué un lieu où nous pourrions trouver un abri pour quelques jours. Cette fille était la providence de notre troupe. Nous reçûmes bientôt quelque argent qu'elle nous envoya, et un avis qui valait mieux pour nous. C'était que tel jour partiraient 2000 ors anglais, allant de Gibraltar à Grenade, par tel chemin. À bon entendeur, salut. Ils avaient de belles et bonnes guinées. Garcia voulait les tuer, mais le Dankaïr et moi nous nous y opposâmes. Nous ne leur prîmes que l'argent et les montres, outre les chemises, dont nous avions grand besoin. Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête. On se bat pour elle. Un malheur arrive, il faut vivre à la montagne, et de contrebandier on devient voleur avant d'avoir réfléchi. Nous jugeâmes qu'il ne faisait pas bon pour nous dans les environs de Gibraltar, après l'affaire des Milords, et nous nous enfonçâmes dans la Sierra de Ronda. Vous m'avez parlé de José Maria. Tenez, c'est là que j'ai fait connaissance avec lui. Il menait sa maîtresse dans ses expéditions. C'était une jolie fille, sage, modeste, de bonne manière. Jamais un mot malhonnête et un dévouement. En revanche, il la rendait bien malheureuse. Il était toujours à courir après toutes les filles. Il la malmenait. Puis quelquefois, il s'avisait de faire le jaloux. Une fois, il lui donna un coup de couteau. Eh bien, elle ne l'en aimait que davantage. Les femmes sont ainsi faites, les Andalouses surtout. Celle-là était fière de la cicatrice qu'elle avait au bras et la montrait comme la plus belle chose du monde. Et puis José Maria, par-dessus le marché, était le plus mauvais camarade. Dans une expédition que nous fîmes, il s'arrangea si bien que tout le profit lui en demeura, à nous les coups et l'embarras de l'affaire. Mais je reprends mon histoire. Nous n'entendions plus parler de Carmen. Le Dankaïr dit « Il faut qu'un de nous aille à Gibraltar pour en avoir des nouvelles. Elle doit avoir préparé quelque affaire. J'irai bien, mais je suis trop connu à Gibraltar. » Le borgne dit « Moi aussi, on m'y connaît. J'y ai fait tant de farces aux écrevisses. » Note, nom que le peuple en Espagne donne aux Anglais à cause de la couleur de leur uniforme. Fin de la note. « Et comme je n'ai qu'un œil, je suis difficile à déguiser. »« Il faut donc que j'y aille, » dis-je à mon tour, enchanté à la seule idée de revoir Carmen. « Voyons, que faut-il faire ?» Les autres me dirent, « Fais tant que de t'embarquer ou de passer par Saint-Roch, comme tu aimeras le mieux, et, lorsque tu seras à Gibraltar, demande sur le port où demeure une marchande de chocolat qui s'appelle la Rolona. Quand tu l'auras trouvée, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas. » Il fut convenu que nous partirions tous les trois pour la Sierra de Gossin, que j'y laisserais mes deux compagnons et que je me rendrais à Gibraltar comme un marchand de fruits. À Ronda, un homme qui était à nous m'avait procuré un passeport. À Gossin, on me donna un âne. Je le chargeai d'oranges et de melons et je me mis en route. Arrivé à Gibraltar, je trouvai qu'on y connaissait bien la Rolona, mais elle était morte ou elle était allée à Finibus Terrae, note, aux galères, ou bien à tous les diables, fin de la note, et sa disparition expliquait, à mon avis, comment nous avions perdu notre moyen de correspondre avec Carmen. Je mis mon âne dans une écurie, et, prenant mes oranges, j'allais par la ville comme pour les vendre, mais, en effet, pour voir si je ne rencontrerais pas quelque figure de connaissance. Il y a là force canaille de tous les pays du monde, et c'est la tour de Babel, car on ne saurait faire 10 pas dans une rue sans entendre parler autant de langues. Je voyais bien des gens d'Égypte, mais je n'osais guère m'y fier. Je les tâtais, et ils me tâtaient. Nous devinions bien que nous étions des coquins. L'important était de savoir si nous étions de la même bande. Après 2 jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Rolona ni Carmen, et je pensais à retourner auprès de mes camarades après avoir fait quelques emplettes, lorsqu'en me promenant dans une rue, au coucher du soleil, j'entends une voix de femme d'une fenêtre qui me dit « Marchand d'oranges !» Je lève la tête et je vois à un balcon Carmen, accoudée avec un officier en rouge, épaulette d'or, cheveux frisés, tournure d'un gros milord. Pour elle, elle était habillée superbement. Un châle sur ses épaules, une peigne d'or, tout en soie, et la bonne pièce, toujours la même, riait à se tenir les côtes. L'Anglais, en baragouinant l'Espagnol, me cria de monter, que madame voulait des oranges. Et Carmen me dit en basque, « Monte, et ne t'étonne de rien !» Rien, en effet, ne devait m'étonner de sa part. Je ne sais si j'eus plus de joie que de chagrin en la retrouvant. Il y avait à la porte un grand domestique anglais, poudré, qui me conduisit dans un salon magnifique. Carmen me dit aussitôt en basque, « Tu ne sais pas un mot d'espagnol, tu ne me connais pas. » Puis, se tournant vers l'anglais, « Je vous le disais bien, je l'ai tout de suite reconnu pour un basque. Vous allez entendre quelle drôle de langue. Comme il a l'air bête, n'est-ce pas? On dirait un chat surpris dans un garde-manger. Et toi, lui dis-je dans ma langue, tu as l'air d'une effrontée coquine et j'ai bien envie de te balafrer la figure devant ton galant. Mon galant, dit-elle, tiens, tu as deviné cela tout seul? Et tu es jaloux de cet imbécile-là? Tu es encore plus niais qu'avant nos soirées de la rue du Candilero. Ne vois-tu pas, sot que tu es, que je fais en ce moment les affaires d'Égypte et de la façon la plus brillante? Cette maison est à moi, les guinées de l'écrevisse seront à moi. Je le mène par le bout du nez. Je le mènerai d'où il ne sortira jamais. Et moi, lui dis-je, si tu fais encore les affaires d'Égypte de cette manière-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus. Ah, Ouida, es-tu mon rhum pour me commander? Le borgne le trouve bon, qu'as-tu à y voir? Ne devrais-tu pas être bien content d'être le seul qui se puisse dire mon minchoro? Note, mon amant, ou plutôt mon caprice. Fin de la note. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda l'anglais. Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup, répondit Carmen. Et elle se renversa sur un canapé en éclatant de rire à sa traduction. Monsieur, quand cette fille-là riait, il n'y avait pas moyen de parler raison. Tout le monde riait avec elle. Ce grand anglais se mit à rire aussi, comme un imbécile qu'il était, et ordonna qu'on m'apportât à boire. Pendant que je buvais, « Vois-tu cette bague qu'il a au doigt ? » dit-elle. « Si tu veux, je te la donnerai. » Moi, je répondis, « Je donnerais un doigt pour tenir ton milord dans la montagne, chacun un maquila au poing. » « Maquila, qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda l'anglais. « Maquila ? » dit Carmen riant toujours. « C'est une orange. N'est-ce pas un bien drôle de mot pour une orange ? Il dit qu'il voudrait vous faire manger du maquila. »« Oui ? » dit l'anglais. « Eh bien, apporte encore demain du maquila. » Pendant que nous parlions, le domestique entra et dit que le dîner était prêt. Alors l'anglais se leva, me donna une piastre et offrit son bras à Carmen comme si elle ne pouvait pas marcher seule. Carmen, riant toujours, me dit « Mon garçon, je ne puis t'inviter à dîner, mais demain, dès que tu entendras le tambour pour la parade, viens ici avec des oranges. Tu trouveras une chambre mieux meublée que celle de la rue du Candilero, et tu verras si je suis toujours ta Carmencita. Et puis nous parlerons des affaires d'Égypte. » Je ne répondis rien, et j'étais dans la rue, que l'anglais me criait « Apportez demain du maquila !» Et j'entendais les éclats de rire de Carmen. Je sortis ne sachant ce que je ferais, je ne dormis guère, et le matin je me trouvais si en colère contre cette traîtresse que j'avais résolu de partir de Gibraltar sans la revoir. Mais, au premier roulement de tambour, tout mon courage m'abandonna. Je pris ma natte d'orange et je courus chez Carmen. Sa jalousie était entr'ouverte, et je vis son grand œil noir qui me guettait. Le domestique poudré m'introduisit aussitôt. Carmen lui donna une commission, et dès que nous fûmes seuls, elle partit d'un de ses éclats de rire de crocodile et se jeta à mon cou. Je ne l'avais jamais vue si belle. Parée comme une madone, parfumée, des meubles de soie, des rideaux brodés. Ah ! Et moi, fait comme un voleur que j'étais. « Minchoro, disait Carmen, j'ai envie de tout casser ici, de mettre le feu à la maison et de m'enfuir à la Sierra. » Et c'était des tendresses, et puis des rires. Et elle dansait, et elle déchirait ses falbalas. Jamais singe ne fit plus de gambades, de grimaces, de diableries. Quand elle eut repris son sérieux, « Écoute, me dit-elle, il s'agit de l'Égypte. Je veux qu'il me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse. » Ici, nouveaux éclats de rire. « Nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui, pillez Razibus. » Le mieux serait de l'escoffier. Mais, ajouta-t-elle avec un sourire diabolique qu'elle avait dans de certains moments, et ce sourire-là, personne n'avait alors envie de l'imiter. Sais-tu ce qu'il faudrait faire?
Que le borgne paraisse le premier. Tenez-vous un peu en arrière. L'écrevisse est brave et adroit. Il a de bons pistolets. Comprends-tu ? Elle s'interrompit par un nouvel éclat de rire qui me fit frissonner. Non, lui dis-je, je hais Garcia, mais c'est mon camarade. Un jour peut-être je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays. Je ne suis égyptien que par hasard, et pour certaines choses je serai toujours franc navarrais, comme dit le proverbe. Elle reprit. Tu es une bête, un niais, un vrai païlo. Tu es comme le nain qui se croit grand quand il a pu cracher loin. Tu ne m'aimes pas, va-t'en. Quand elle me disait « va-t'en », je ne pouvais m'en aller. Je promis de partir, de retourner auprès de mes camarades et d'attendre l'anglais. De son côté, elle me promit d'être malade jusqu'au moment de quitter Gibraltar pour Ronda. Je demeurai encore 2 jours à Gibraltar. Elle eut l'audace de me venir voir déguisée dans mon auberge. Je partis. Moi aussi j'avais mon projet. Je retournai à notre rendez-vous, sachant le lieu et l'heure où l'Anglais et Carmen devaient passer. Je trouvai le Dankaïr et Garcia qui m'attendaient. Nous passâmes la nuit dans un bois auprès d'un feu de pommes de pin qui flambait à merveille. Je proposai à Garcia de jouer aux cartes. Il accepta. À la seconde partie, je lui dis qu'il trichait. Il se mit à rire. Je lui jetai les cartes à la figure. Il voulut prendre son espingole. Je mis le pied dessus et je lui dis « On dit que tu sais jouer du couteau comme le meilleur Jacques de Malaga. Veux-tu t'essayer avec moi ?» Le Dankaïr voulut nous séparer. J'avais donné 2 ou 3 coups de poing à Garcia. La colère l'avait rendu brave. Il avait tiré son couteau, moi le mien. Nous dîmes tous deux au Dankaïr de nous laisser place libre et franc jeu. Il vit qu'il n'y avait pas moyen de nous arrêter et il s'écarta. Garcia était déjà ployé en deux comme un chat prêt à s'élancer contre une souris. Il tenait son chapeau de la main gauche pour parer, son couteau en avant. C'est leur garde andalouse. Moi, je me mis à la Navarraise, droite en face de lui, le bras gauche levé, la jambe gauche en avant, le couteau le long de la cuisse droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il se lança sur moi comme un trait. Je tournai sur le pied gauche et il ne trouva plus rien devant lui. Mais je l'atteignis à la gorge et le couteau entra si avant que ma main était sous son menton. Je retournai la lame si fort qu'elle se cassa. C'était fini. La lame sortit de la plaie lancée par un bouillon de sang gros comme le bras. Il tomba sur le nez, roide comme un pieu. « Qu'as-tu fait ?» me dit le Dankaïr. « Écoute, lui dis-je. Nous ne pouvions vivre ensemble. J'aime Carmen et je veux être seul. D'ailleurs, Garcia était un coquin, et je me rappelle ce qu'il a fait au pauvre Remendado. Nous ne sommes plus que deux, mais nous sommes de bons garçons. Voyons, veux-tu de moi pour ami, à la vie et à la mort ? » Le Dankaïr me tendit la main. C'était un homme de 50 ans. « Au diable les amourettes ! » s'écria-t-il. « Si tu lui avais demandé, Carmen, il te l'aurait vendu pour 1 piastre. Nous ne sommes plus que deux. Comment ferons-nous demain ? » ?»« Laisse-moi faire tout seul, » lui répondis-je. « Maintenant, je me moque du monde entier. » Nous enterrâmes Garcia et nous allâmes placer notre camp 200 pas plus loin. Le lendemain, Carmen et son Anglais passèrent avec 2 muletiers et 1 domestique. Je dis au Dankaïr, « Je me charge de l'Anglais. Fais peur aux autres, ils ne sont pas armés. » L'Anglais avait du cœur. Si Carmen ne lui eût poussé le bras, il me tuait. Bref, je reconquis Carmen ce jour-là, et mon premier mot fut de lui dire qu'elle était veuve. Quand elle sut comment cela s'était passé, « Tu seras toujours un Lilipendi, » me dit-elle. « Garcia devait te tuer. Ta garde navarraise n'est qu'une bêtise, et il en a mis à l'ombre de plus habiles que toi. C'est que son temps était venu. Le tien viendra. » « Et le tien, » répondis-je, « si tu n'es pas pour moi une vraie Romi. » « À la bonne heure, » dit-elle. « J'ai vu plus d'une fois dans du marc de café que nous devions finir ensemble. Bah, arrive qui plante. » Et elle fit claquer ses castagnettes, ce qu'elle faisait toujours quand elle voulait chasser quelque idée importune. On s'oublie quand on parle de soi. Tous ces détails-là vous ennuient sans doute, mais j'ai bientôt fini. La vie que nous menions dura assez longtemps. Le Dankaïr et moi, nous nous étions associés quelques camarades plus sûrs que les premiers, et nous nous occupions de contrebande, et aussi parfois, il faut bien l'avouer,
nous arrêtions sur la grande route, mais à la dernière extrémité, et lorsque nous ne pouvions faire autrement. D'ailleurs, nous ne maltraitions pas les voyageurs, et nous nous bornions à leur prendre leur argent. Pendant quelques mois, je fus content de Carmen. Elle continuait à nous être utile pour nos opérations, en nous avertissant des bons coups que nous pourrions faire. Elle se tenait soit à Malaga, soit à Cordoue, soit à Grenade. Mais, sur un mot de moi, elle quittait tout et venait me retrouver dans une venta isolée ou même au bivouac. Une fois seulement, c'était à Malaga, elle me donna quelque inquiétude. Je sus qu'elle avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche avec lequel, probablement, elle se proposait de recommencer la plaisanterie de Gibraltar. Malgré tout ce que le d'Ancaïr put me dire pour m'arrêter, je partis et j'entrai dans Malaga en plein jour. Je cherchai Carmen et je l'emmenai aussitôt. Nous eûmes une verte explication. « Sais-tu, me dit-elle, que, depuis que tu es mon rhum pour tout de bon, je t'aime moins que lorsque tu étais mon minchorro. Je ne veux pas être tourmenté, ni surtout commandé. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Prends garde de me pousser à bout. Si tu m'ennuies, je trouverai quelque bon garçon qui te fera comme tu as fait au borgne. » Le d'Ancaïr nous raccommoda, mais nous nous étions dit des choses qui nous restaient sur le cœur, et nous n'étions plus comme auparavant. Peu après, un malheur nous arriva. La troupe nous surprit. Le d'Ancaïr fut tué, ainsi que deux de mes camarades. Deux autres furent pris. Moi, je fus grièvement blessé, et, sans mon bon cheval, je demeurais entre les mains des soldats. Exténué de fatigue, ayant une balle dans le corps, j'allai me cacher dans un bois avec le seul compagnon qui me resta. Je m'évanouis en descendant de cheval, et je crus que j'allais crever dans les broussailles comme un lièvre qui a reçu du plomb. Mon camarade me porta dans une grotte que nous connaissions, puis il alla chercher Carmen. Elle était à Grenade, et aussitôt elle accourut. Pendant 15 jours, elle ne me quitta pas d'un instant. Elle ne ferma pas l'œil. Elle me soigna avec une adresse et des attentions que jamais femme n'a eues pour l'homme le plus aimé. Dès que je pus me tenir sur mes jambes, elle me mena à Grenade dans le plus grand secret. Les bohémiennes trouvent partout des asiles sûrs, et je passai plus de 6 semaines dans une maison à 2 portes du corégidor qui me cherchait. Plus d'une fois, regardant derrière un volet, je le vis passer. Enfin, je me rétablis, mais j'avais fait bien des réflexions sur mon lit de douleur, et je projetais de changer de vie. Je parlais à Carmen de quitter l'Espagne et de chercher à vivre honnêtement dans le Nouveau Monde. Elle se moqua de moi. « Nous ne sommes pas faits pour planter des choux, » dit-elle. « Notre destin, à nous, c'est de vivre aux dépens des païlos. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben-Joseph de Gibraltar. Il a des cotonnades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant. Il compte sur toi. Que diraient nos correspondants de Gibraltar si tu leur manquais de parole ?» Je me laissai entraîner et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y eut des courses de taureaux où Carmen alla. En revenant, elle parla beaucoup d'un picador très adroit nommé Lucas. Elle savait le nom de son cheval et combien lui coûtait sa veste brodée. Je n'y fis pas attention. Juanito, le camarade qui m'était resté, me dit, quelques jours après, qu'il avait vu Carmen avec Lucas chez un marchand du Zacatin. Cela commença à m'alarmer. Je demandai à Carmen comment et pourquoi elle avait fait connaissance avec le picador. « C'est un garçon, me dit-elle, avec qui on peut faire une affaire. Rivière qui fait du bruit, à de l'eau ou des cailloux. Il a gagné 1 200 réaux aux courses. De deux choses l'une, ou bien il faut avoir cet argent, ou bien, comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, on peut l'enrouler dans notre bande. Un tel et un tel sont morts, tu as besoin de les remplacer. Prends-le avec toi. » « Je ne veux, répondis-je, ni de son argent, ni de sa personne, et je te défends de lui parler. » « Prends garde, me dit-elle, lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. » Heureusement, le picador partit pour Malaga, et moi, je me mis en devoir de faire entrer les cotonnades du juif. J'eus fort à faire dans cette expédition-là, Carmen aussi, et j'oubliais Lucas. Peut-être aussi l'oublia-t-elle, pour le moment du moins. C'est vers ce temps, monsieur, que je vous rencontrai, d'abord près de Montilla, puis après à Cordoue.
je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue. Vous en savez peut-être plus long que moi. Carmen, vous voilà votre montre. Elle voulait encore votre argent, et surtout cette bague que je vois à votre doigt, et qui, dit-elle, est un anneau magique qui lui importait beaucoup de posséder. Nous eûmes une violente dispute, et je la frappai. Elle pâlit et pleura. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et cela me fit un effet terrible. Je lui demandai pardon, mais elle me bouda pendant tout un jour, et, quand je repartis pour mon tir, elle ne voulut pas m'embrasser. J'avais le cœur gros lorsque, 3 jours après, elle vint me trouver l'air riant et gai comme pinson. Tout était oublié, et nous avions l'air d'amoureux de 2 jours. Au moment de nous séparer, elle me dit « Il y a une fête à Cordoue, je vais la voir, puis je saurai les gens qui s'en vont avec de l'argent, et je te le dirai. » Je la laissai partir. Seule, je pensai à cette fête et à ce changement d'humeur de Carmen. « Il faut qu'elle se soit vengée déjà, » me dis-je, « puisqu'elle est revenue la première. » Un paysan me dit qu'il y avait des taureaux à Cordoue. Voilà mon sang qui bouillonne et, comme un fou, je pars et je vais à la place. On me montra Lucas et, sur le banc contre la barrière, je reconnus Carmen. Il me suffit de la voir 1 minute pour être sûr de mon fait. Lucas, au premier taureau, fit le joli cœur comme je l'avais prévu. Il arracha la cocarde, note, la divisa, nœud de ruban dont la couleur indique les pâturages d'où viennent les taureaux. Ce nœud est fixé dans la peau du taureau au moyen d'un crochet, et c'est le comble de la galanterie que de l'arracher à l'animal vivant pour l'offrir à une femme. Fin de la note. Du taureau, et la porta à Carmen qui s'en coiffa sur le champ. Le taureau se chargea de me venger. Lucas fut culbuté avec son cheval sur la poitrine, et le taureau par-dessus tous les deux. Je regardais Carmen, elle n'était déjà plus à sa place. Il m'était impossible de sortir de celle où j'étais, et je fus obligé d'attendre la fin des courses. Alors j'allai à la maison que vous connaissez, et je mis un coin toute la soirée et une partie de la nuit. Vers 2 heures du matin, Carmen revint et fut un peu surprise de me voir. « Viens avec moi, » lui dis-je. « Eh bien, » dit-elle, « partons. » J'allai prendre mon cheval, je la mis en croupe, et nous marchâmes tout le reste de la nuit sans nous dire un seul mot. Nous nous arrêtâmes au jour dans une venta isolée, assez près d'un petit ermitage. Là, je dis à Carmen, « Écoute, j'oublie tout. Je ne te parlerai de rien, mais jure-moi une chose, c'est que tu vas me suivre en Amérique et que tu t'y tiendras tranquille. « Non, » dit-elle d'un ton boudeur, « je ne veux pas aller en Amérique. Je me trouve bien ici. » C'est parce que tu es près de Lucas. Mais songe-y bien, s'il guérit, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Au reste, pourquoi m'en prendre à lui? Je suis là de tuer tous tes amants. C'est toi que je tuerai. » Elle me regarda fixement de son regard sauvage et me dit « J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vu, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu? Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. « Carmencita, » lui demandai-je, « est-ce que tu ne m'aimes plus ?» Elle ne répondit rien. Elle était assise les jambes croisées sur une natte et faisait des traits par terre avec son doigt. « Changeons de vie, Carmen, » lui dis-je d'un ton suppliant. « Allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Tu sais que nous avons, pas loin d'ici, sous un chêne, 120 onces enterrées. Puis nous avons des fonds encore chez le juif Ben-Joseph. » Elle se mit à sourire et me dit « Moi d'abord, toi ensuite, je sais bien que cela doit arriver ainsi. » « Réfléchis, » repris-je, « je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends ton parti ou je prendrai le mien. » Je la quittai et j'allai me promener du côté de l'ermitage. Je trouvai l'ermite qui priait. J'attendis que sa prière fût finie. J'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. Quand il se releva, j'allai à lui. « Mon père, » lui dis-je, « voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril ?»« Je prie pour tous les affligés, » dit-il. « Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur ?»« Oui, » répondit-il en me regardant fixement. Et comme il y avait dans mon air quelque chose d'étrange, il voulut me faire parler. « Il me semble que je vous ai vu, » dit-il. Je mis une piastre sur son banc.
Quand direz-vous la messe ? Lui demandai-je. Dans une demi-heure, le fils de l'aubergiste de là-bas va venir la servir. Dites-moi, jeune homme, n'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente ? Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien ? Je me sentais prêt de pleurer. Je lui dis que je reviendrais, et je me sauvai. J'allai me coucher sur l'herbe jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la venta. J'espérais presque que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver. Mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous les côtés d'un air triste. Tantôt elle chantait quelqu'une de ses chansons magiques où elles invoquent Marie Padilla, la maîtresse de Don Pedro, qui fut, dit-on, la Barricralissa, ou la grande reine des bohémiens. Note, on a accusé Marie Padilla d'avoir ensorcelé le roi Don Pedro. Une tradition populaire rapporte qu'elle avait fait présent à la reine Blanche de Bourbon d'une ceinture d'or qui parut aux yeux fascinés du roi comme un serpent vivant. De là la répugnance qu'il montra toujours pour la malheureuse princesse. Fin de la note. « Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi ?» Elle se leva, jeta sa sébile et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon cheval, elle monta en croupe, et nous nous éloignâmes. « Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas ? Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi. » Nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval. « Est-ce ici ? » dit-elle, et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile, un poing sur la hanche, me regardant fixement. « Tu veux me tuer, je le vois bien, » dit-elle. « C'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. »« Je t'en prie, lui dis-je, sois raisonnable. Écoute-moi, tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdu. C'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen, ma Carmen, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. »« José, répondit-elle, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus. Toi, tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelques mensonges. » Mais je ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon Rome, tu as le droit de tuer ta Romy. Mais Carmen sera toujours libre. Cali elle est née, Cali elle mourra. Tu aimes donc Lucas ? Lui demandai-je. Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent, je n'aime plus rien, et je me hais pour t'avoir aimé. Je me jetai à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui plaire. Tout, monsieur, tout. Je lui offris tout, pourvu qu'elle voulût m'aimer encore. Elle me dit, « T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas. » La fureur me possédait. Je tirai mon couteau. J'aurais voulu qu'elle eût peur et me demandât grâce. Mais cette femme était un démon. « Pour la dernière fois, m'écriai-je, veux-tu rester avec moi ?»« Non, non, non !» dit-elle en frappant du pied, et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup, sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement. Puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Puis je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait à être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau, et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague, et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle, avec une petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite, je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue, et au premier corps de garde, je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen, mais je n'ai pas voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle. Il a dit une messe pour son âme. Pauvre enfant. Ce sont les Calais qui sont coupables pour l'avoir élevée ainsi. Fin du chapitre 3 de Carmen. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010. Chapitre 4 de Carmen par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. L'Espagne est un des pays où se trouvent aujourd'hui, en plus grand nombre encore, ces nomades dispersés dans toute l'Europe et connus sous les noms de bohémiens, gitanos, gypsies, tzigoïnes, etc. La plupart demeurent, ou plutôt mènent une vie errante dans les provinces du sud et de l'est, en Andalousie, en Estramadure dans le royaume de Murcie, il y en a beaucoup en Catalogne. Ces derniers passent souvent en France. On en rencontre dans toutes nos foires du Midi. D'ordinaire, les hommes exercent les métiers de maquignon, de vétérinaire et de tondeur de mulets. Ils y joignent l'industrie de raccommoder les poêlons et les instruments de cuivre, sans parler de la contrebande et autres pratiques illicites. Les femmes disent la bonne aventure, mendient et vendent toutes sortes de drogues, innocentes ou non. Les caractères physiques des bohémiens sont plus faciles à distinguer qu'à décrire, et lorsqu'on en a vu un seul, on reconnaîtrait entre 1000 un individu de cette race. La physionomie, l'expression, voilà surtout ce qui les sépare des peuples qui habitent le même pays. Leur teint est très basané, toujours plus foncé que celui des populations parmi lesquelles ils vivent. De là le nom de Calais, les Noirs, par lequel ils se désignent souvent. Note, il m'a semblé que les bohémiens allemands, bien qu'ils comprennent parfaitement le mot Calais, n'aimaient point à être appelés de la sorte. Ils s'appellent entre eux Romane Chavé. Fin de la note. Leurs yeux sensiblement obliques, bien fendus, très noirs, sont ombragés par des cils longs et épais. On ne peut comparer leur regard qu'à celui d'une bête fauve. L'audace et la timidité s'y peignent tout à la fois, et sous ce rapport, leurs yeux révèlent assez bien le caractère de la nation, rusée, hardie, mais craignant naturellement les coups, comme Panurge. Pour la plupart, les hommes sont bien découplés, sveltes, agiles. Je ne crois pas en avoir jamais vu un seul chargé d'embonpoint. En Allemagne, les bohémiennes sont souvent très jolies. La beauté est fort rare parmi les gitanas d'Espagne. Très jeunes, elles peuvent passer pour des laiderons agréables. Mais une fois qu'elles sont mères, elles deviennent repoussantes. La saleté des deux sexes est incroyable, et qui n'a pas vu les cheveux d'une matrone bohémienne s'en fera difficilement une idée, même en se représentant les crins les plus rudes, les plus gras, les plus poudreux. Dans quelques grandes villes d'Andalousie, certaines jeunes filles un peu plus agréables que les autres prennent plus de soin de leur personne. Celles-là vont danser pour de l'argent, des danses qui ressemblent fort à celles que l'on interdit dans nos bals publics du carnaval. Monsieur Borrow, missionnaire anglais, auteur de deux ouvrages fort intéressants sur les bohémiens d'Espagne, qu'il avait entrepris de convertir, aux frais de la société biblique, assure qu'il est sans exemple qu'une gitana ait jamais eu quelque faiblesse pour un homme étranger à sa race. Il me semble qu'il y a beaucoup d'exagération dans les éloges qu'il accorde à leur chasteté. D'abord, le plus grand nombre est dans le cas de la laide d'Ovide. Casta quam nemo rogavit. Quant aux jolies, elles sont, comme toutes les Espagnoles, difficiles dans le choix de leurs amants. Il faut leur plaire, il faut les mériter. M. Borrow cite comme preuve de leur vertu un trait qui fait honneur à la sienne, surtout à sa naïveté. Un homme immoral de sa connaissance offrit, dit-il, inutilement plusieurs onces à une jolie gitana. Un Andalou, à qui je racontais cette anecdote, prétendit que cet homme immoral aurait eu plus de succès en montrant deux ou trois piastres, et qu'offrir des onces d'or à une bohémienne était un aussi mauvais moyen de persuader que de promettre 1 million ou deux à une fille d'auberge. Quoi qu'il en soit, il est certain que les gitanas montrent à leur mari un dévouement extraordinaire. Il n'y a pas de danger ni de misère qu'elles ne bravent pour les secourir en leur nécessité. Un des noms que se donnent les bohémiens, Romés ou les époux, me paraît attester le respect de la race pour l'état de mariage. En général, on peut dire que leur principale vertu est le patriotisme, si l'on peut ainsi appeler la fidélité qu'ils observent dans leurs relations avec les individus de même origine qu'eux, leur empressement à s'entraider, le secret inviolable qu'ils se gardent dans les affaires compromettantes. Au reste, dans toutes les associations mystérieuses et en dehors des lois, on observe quelque chose de semblable. J'ai visité, il y a quelques mois, une horde de bohémiens établis dans les Vosges. Dans la hutte d'une vieille femme, l'ancienne de sa tribu, il y avait un bohémien étranger à sa famille, attaqué d'une maladie mortelle. Cet homme avait quitté un hôpital où il était bien soigné pour aller mourir au milieu de ses compatriotes. Depuis 13 semaines, il était alité chez ses hôtes et beaucoup mieux traité que les fils et les gendres qui vivaient dans la même maison. Il avait un bon lit de paille et de mousse avec des draps assez blancs, tandis que le reste de la famille, au nombre de 11 personnes, couchait sur des planches longues de 3 pieds. Voilà pour leur hospitalité. La même femme, si humaine pour son hôte, me disait devant le malade « Singo, Singo, homte himulo. Dans peu, il faut qu'il meure. » Après tout, la vie de ces gens est si misérable que l'annonce de la mort n'a rien d'effrayant pour eux. Un trait remarquable du caractère des bohémiens, c'est leur indifférence en matière de religion. Non qu'ils soient esprits forts ou sceptiques. Jamais ils n'ont fait profession d'athéisme. Loin de là, la religion du pays qu'ils habitent est la leur, mais ils en changent en changeant de patrie. Les superstitions qui, chez les peuples grossiers, remplacent les sentiments religieux, leur sont également étrangères. Le moyen, en effet, que des superstitions existent chez des gens qui vivent le plus souvent de la crédulité des autres. Cependant, j'ai remarqué chez les bohémiens espagnols une horreur singulière pour le contact d'un cadavre. Il y en a peu qui consentiraient pour de l'argent à porter un mort au cimetière. J'ai dit que la plupart des bohémiennes se mêlaient de dire la bonne aventure. Elles s'en acquittent fort bien. Mais ce qui est pour elles une source de grand profit, c'est la vente des charmes et des philtres amoureux. Non seulement elles tiennent des pattes de crapaud pour fixer les cœurs-volages, ou de la poudre de pierre d'aimant pour se faire aimer des insensibles, mais elles font au besoin des conjurations puissantes qui obligent le diable à leur prêter son secours. L'année dernière, une Espagnole me racontait l'histoire suivante. Elle passait un jour dans la rue d'Alcala, fort triste et préoccupée. Une bohémienne accroupie sur le trottoir lui cria « Ma belle dame, votre amant vous a trahi !» C'était la vérité. « Voulez-vous que je vous le fasse revenir ?» On comprend avec quelle joie la proposition fut acceptée et quelle devait être la confiance inspirée par une personne qui devinait ainsi d'un coup d'œil les secrets intimes du cœur. Comme il eût été impossible de procéder à des opérations magiques dans la rue la plus fréquentée de Madrid, on convint d'un rendez-vous pour le lendemain. « Rien de plus facile que de ramener l'infidèle à vos pieds, » dit la gitana. « Auriez-vous un mouchoir, une écharpe, une mantille qu'il vous ait donnée ?» On lui remit un fichu de soie. Maintenant, cousez avec de la soie cramoisie une piastre dans un coin du fichu. Dans un autre coin, cousez une demi-piastre. Ici, une piécette. Là, une pièce de 2 réaux. Puis il faut coudre au milieu une pièce d'or. Un doublon serait le mieux. On coud le doublon et le reste. À présent, donnez-moi le fichu, je vais le porter au Campo Santo, à minuit sonnant. Venez avec moi si vous voulez voir une belle diablerie. Je vous promets que dès demain, vous reverrez celui que vous aimez. » La bohémienne partit seule pour le Campo Santo, car on avait trop peur des diables pour l'accompagner. Je vous laisse à penser si la pauvre amante délaissée a revu son fichu et son infidèle. Malgré leur misère et l'espèce d'aversion qu'ils inspirent, les bohémiens jouissent cependant d'une certaine considération parmi les gens peu éclairés, et ils en sont très vains. Ils se sentent une race supérieure pour l'intelligence et méprisent cordialement le peuple qui leur donne l'hospitalité. « Les gentils sont si bêtes, me disait une bohémienne des Vosges, qu'il n'y a aucun mérite à les attraper. L'autre jour, une paysanne m'appelle dans la rue, j'entre chez elle. Son poil fumait et elle me demande un sort pour le faire aller. Moi, je me fais d'abord donner un bon morceau de lard. Puis je me mets à marmotter quelques mots en romani. « Tu es bête, je disais, tu es née bête, bête tu mourras. » Quand je fus près de la porte, je lui dis en bon allemand « Le moyen infaillible d'empêcher ton poil de fumer, c'est de n'y pas faire de feu. » Et je pris mes jambes à mon cou. L'histoire des bohémiens est encore un problème. On sait à la vérité que leurs premières bandes, fort peu nombreuses, se montrèrent dans l'est de l'Europe, vers le commencement du XVe siècle. Mais on ne peut dire ni d'où ils viennent, ni pourquoi ils sont venus en Europe. Et, ce qui est plus extraordinaire, on ignore comment ils se sont multipliés en peu de temps d'une façon si prodigieuse dans plusieurs contrées fort éloignées les unes des autres. Les Bohémiens eux-mêmes n'ont conservé aucune tradition sur leur origine, et si la plupart d'entre eux parlent de l'Égypte comme de leur patrie primitive, c'est qu'ils ont adopté une fable très anciennement répandue sur leur compte. La plupart des orientalistes qui ont étudié la langue des Bohémiens croient qu'ils sont originaires de l'Inde. En effet, il paraît qu'un grand nombre de racines et beaucoup de formes grammaticales du romani se retrouvent dans des idiomes dérivés du sanskrit. On conçoit que dans leur longue pérégrination, les Bohémiens ont adopté beaucoup de mots étrangers. Dans tous les dialectes du romani, on trouve quantité de mots grecs. Par exemple, kokal, os, de kokalon. Pétali, fer de cheval, de pétalon. Kafi, clou, de kafi. Etc. Aujourd'hui, les Bohémiens ont presque autant de dialectes différents qu'il existe de hordes de leur race, séparées les unes des autres. Partout, ils parlent la langue du pays qu'ils habitent plus facilement que leur propre idiome, dont ils ne font guère usage que pour pouvoir s'entretenir librement devant des étrangers. Si l'on compare le dialecte des Bohémiens de l'Allemagne avec celui des Espagnols, sans communication avec les premiers depuis des siècles, on reconnaît une très grande quantité de mots communs. Mais la langue originale, partout, quoiqu'à différents degrés, s'est notablement altérée par le contact des langues plus cultivées, dont ces nomades ont été contraints de faire usage. L'allemand d'un côté, l'espagnol de l'autre, ont tellement modifié le fond du romani qu'il serait impossible à un bohémien de la forêt noire de converser avec un de ses frères andalous, bien qu'il leur suffit d'échanger quelques phrases pour reconnaître qu'ils parlent tous les deux un dialecte dérivé du même idiome. Quelques mots d'un usage très fréquent sont communs, je crois, à tous les dialectes. Ainsi, dans tous les vocabulaires que j'ai pu voir, pani veut dire de l'eau, manro du pain, mas de la viande, lon du sel. Les noms de nombres sont partout à peu près les mêmes. Le dialecte allemand me semble beaucoup plus pur que le dialecte espagnol, car il a conservé nombre de formes grammaticales primitives, tandis que les gitanos ont adopté celles du castillan. Pourtant, quelques mots font exception pour attester l'ancienne communauté de langage. Les prétérites du dialecte allemand se forment en ajoutant « jum » à l'impératif, qui est toujours la racine du verbe. Les verbes dans le romani espagnol se conjuguent tous sur le modèle des verbes castillans de la première conjugaison. De l'infinitif « jamar », « manger », on devrait régulièrement faire « jamais »,« j'ai mangé ». De « lilar », « prendre », on devrait faire « lilé », « j'ai pris ». Cependant, quelques vieux bohémiens disent par exception « jayon, lilon ». Je ne connais pas d'autre verbe qui ait conservé cette forme antique. Pendant que je fais ainsi étalage de mes minces connaissances dans la langue romanie, je dois noter quelques mots d'argot français que nos voleurs ont empruntés aux bohémiens. Les mystères de Paris ont appris à la bonne compagnie que « chourin » voulait dire « couteau ». C'est du romanie pur. « Chouri » est un de ces mots communs à tous les dialectes. Monsieur Vidocq appelle un cheval grès, c'est encore un mot bohémien, gras, grès, graste, gris. Ajoutez encore le mot romanichel, qui dans l'argot parisien désigne les bohémiens. C'est la corruption de romanechave, gars bohémien. Mais une étymologie dont je suis fier, c'est celle de frimousse, mine, visage, mot que tous les écoliers emploient ou employaient de mon temps. Observez d'abord que Houdin, dans son curieux dictionnaire, écrivait en 1640 « firlimouse ». Or, « firla »,« fila » en romanie, veut dire « visage ».« Mui » a la même signification, c'est exactement « os » des latins. La combinaison « firla mui » a été sur le champ comprise par un bohémien puriste et je la crois conforme au génie de sa langue. En voilà bien assez pour donner au lecteur de Carmen une idée avantageuse de mes études sur le romanie. Je terminerai par ce proverbe qui vient à propos. En retudi panda nasti abela macha. En close bouche, n'entre point mouche. Fin du chapitre 4 de Carmen. Fin de Carmen par Prosper Mérimée. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en août 2010.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. At Kroger Pharmacy, care is what's most convenient for you. Care is being here when you need us. We're open evenings and weekends. Care is helping you save more. Most insurance plans and discount cards are accepted at your local Kroger Pharmacy. Care is saving you time by managing your prescriptions online. You can request refills, check order status, and more. Care is convenience that works for everyone. Kroger Health, a world of care is in store. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. For coverage, consult your health insurance company. Visit the pharmacy or our site for details.